9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour, amis IES et IS de la radio. Maître Serran, avocat de son État, est ravi de vous accueillir au sein de la seule radio qui, en direct et tous les samedis, tente d'apporter des réponses à vos problèmes de droit. Et ce, quel que soit votre problème, vous êtes en situation irrégulière, appelez-nous. Vous avez des problèmes avec votre employeur, votre propriétaire ou locataire, appelez-nous. Un litige avec votre compagnie d'assurance, on est là pour vous aider. Votre vie de couple commence à sentir mauvais et un divorce se profile. On tentera de vous conseiller. Bon, si vous êtes en plein divorce, en litige avec votre propriétaire et sur le point d'être licencié, vous pouvez aussi appeler, mais au préalable, posez-vous la question, la seule question qui vaille, n'êtes-vous pas manifestement un pénible de service ou alors sous l'effet d'un mauvais karma? Mais mauvais karma ou pas, avant de plonger sur votre téléphone portable pour nous contacter, je vais au préalable évoquer l'actualité de la semaine. Alors, j'aurais pu vous parler de l'échange de prisonniers entre la basketteuse américaine Brittney Griner, condamnée à 9 ans de prison en Russie, et le russe Victor Bout, condamné à 25 ans de prison par la justice américaine. Mais tout ça n'est rien face à l'élimination du Brésil par la Croatie, face à la qualification de l'Argentine face aux Pays-Bas, après un match extraordinaire de rebondissement. Quand je pense que la semaine dernière, je vous disais, mon cher Philippe, que je voyais le Brésil en finale, c'est dire la qualité de mes analyses dans ce domaine. Mais il y a plus important que ces événements, c'est la victoire extraordinaire du Maroc contre l'Espagne après une séance de tirs au but. En dehors de ces tirs au but, toujours aléatoires, il faut reconnaître que le Maroc a largement mérité sa victoire. Les Lions de l'Atlas n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Et puis, j'ai bien aimé le discours du sélectionneur qui a déclaré qu'il n'y avait aucune raison que les prétendues petites équipes n'aient pas l'ambition de gagner une Coupe du Monde alors que la grande majorité des joueurs de ces pays jouent dans les plus grands clubs européens. Un plafond de verre a explosé. Et à travers ce pays, c'est toute l'Afrique qui est représentée, enfin toute l'Afrique, à l'exception du Cameroun que j'exclus des festivités d'office, l'Algérien que je suis n'a pas besoin de vous dire pourquoi. Et puis, le Maghrébin a le sens de la fête. À peine le match terminé, on a entendu des voitures klaxonner, des drapeaux marocains et algériens partout. J'ai même cru que c'est l'Algérie qui avait gagné. C'est dans ces moments-là que je me dis qu'il y a un décalage entre les politiques de ces deux pays et le peuple. Les politiques s'affrontent systématiquement. La frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée, et j'en parle d'autant plus facilement que Razaouat n'est pas loin de la frontière marocaine, alors que le peuple de ces deux pays veut simplement vivre en harmonie. D'ailleurs, je vais vite arrêter de parler et on va même écourter l'émission car à 16h, le Maroc affronte le Portugal et comme mon cher Philippe, j'aimerais regarder le match hein, dans une chicha au 5e. Je sais que les places seront prises d'assaut. Alors, tous derrière le Maroc qui, je l'espère, va nous faire plaisir en battant le Portugal qui est à sa portée. Et c'est un grand analyste du football qui vous le dit. Allez, avant d'aller regarder ce match et de fêter, Inch'Allah, la victoire du Maroc, vous êtes invité à nous appeler au 01 53 48 3000 pour poser vos questions et les poser rapidement. Émission sous le contrôle de celui qu'on échangerait contre rien au monde, monsieur Philippe Robichon, à vous, maestro.
Maître Serran, tous les samedis en direct sur Beurre FM. Et donc, c'est vrai que vous allez, après cette émission, partir direction votre chicha préféré pour déjà retenir votre siège.
Ah bah oui, parce que ça va être blindé, donc il n'y aura plus de place. Et j'ai besoin de mon petit confort et j'ai une place attitrée. Donc,
je suis sûr que c'est vrai. Comment s'appelle votre chicha préféré?
Le Five.
Ah, le Five.
Ouais, le Five.
D'accord. Dans le cinquième.
C'est dans le cinquième. Ouais, voilà. Ouais. Pas loin de la mosquée.
Oui, c'est à côté de la mosquée de Paris.
Ouais, bah voilà, c'est sur le même boulevard.
Ouais, d'accord. En fait, voilà. Mosquée et chicha.
Exactement.
C'est un programme assez intéressant, je veux dire.
Je vais avec ma gilet là-bas. Voilà. Donc, je fais les deux.
Bien. Et votre casquette, bien sûr.
Toujours.
Voilà, on est tous derrière le Maroc.
Ah bah oui, carrément.
Match à 16h.
Match à 16h, mais carrément, on est derrière le Maroc, évidemment. Y a pas, ça se discute pas. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et ils ont un coach aussi. Enfin, moi, je suis admiratif devant ce type-là, qui est pas, encore une fois, fixé spécialement Maroc. C'est-à-dire que quand il parle de ce pays, quand il parle de la victoire de ce pays, il parle de l'ensemble des pays du Maghreb, il parle de l'Afrique. Et c'est un discours que j'aime. Ouais, c'est un discours qu'on entend nulle part, à part les querelles entre l'Algérie et le Maroc. Donc, ça me fait vraiment plaisir.
Bien, un petit pronostic.
Bah écoutez, moi franchement,
oui, parce que je vois, que vous êtes un peu notre Paul de poule, pas nous. Et donc, alors,
d'abord victoire du Maroc.
Oui.
Ouais, moi, selon moi, c'est tout à fait jouable, les gars. Donc vous pouvez y aller. Et puis un 2-0, ce serait jouable pour le Maroc. Ouais. Je sens un Portugal un peu fatigué.
Bon, voilà. On verra si Maître Serran a raison la semaine prochaine, si vous êtes là, Maître Serran.
Pourquoi vous rajoutez si vous êtes là?
Parce que j'ai consulté votre emploi du temps, Maître Serran, et
une grosse audience.
Samedi matin, j'ai vu qu'il y avait un petit point d'interrogation, et je vais faire sauter ce point d'interrogation.
Ouais, c'est
très important
audience.
Que vous soyez là jusqu'au bout. Bien, on parlait de titre de séjour, Maître Serran, avec des difficultés visiblement du côté des Algériens pour retirer leur titre de séjour. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors d'abord, ça avait été annoncé par Monsieur Moussa Darmanin, comme dirait le président algérien. Donc ça avait été annoncé et c'est en fait une querelle entre les politiques des deux pays. C'est d'abord ça. À partir du moment où il y a toujours un litige latent entre la France et l'Algérie, donc forcément il y a des conséquences sur les titres de séjour. Et les autorités françaises ont considéré que l'Algérie, mais ça s'applique également au Maroc, ne jouait pas le jeu, dans le sens où si moi, autorité française, je veux expulser une personne de nationalité algérienne, encore une fois, et quelle que soit d'ailleurs la nationalité de cette personne, j'ai toujours besoin de ce fameux laissez-passer des autorités consulaires. Sans ce laissez-passer, quelqu'un qui aurait une obligation de quitter le territoire, quelqu'un qui ferait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée par les autorités administratives, je ne peux pas exécuter la décision. C'est-à-dire que imaginons même que j'envisage de le mettre dans un avion, une fois sur place, l'avion ferait demi-tour avec l'intéressé. Donc il faut que le pays concerné par cette mesure donne son feu vert. Et il est vrai que depuis quelques années maintenant, les autorités algériennes sont assez réticentes à donner ce feu vert, à donner ce petit document qui permettrait d'exécuter la décision. Il y a très longtemps, c'est le Mali qui était connu pour ça. Donc le Mali, d'abord,
il refusait.
Voilà, il reconnaissait même pas ses ressortissants, c'est-à-dire qu'il disait systématiquement XY n'est même pas malien. Donc la question se posait même pas sur ce fameux laissez-passer. Et puis c'est vrai que l'Algérie donc a procédé depuis quelque temps de la même manière. Alors ça peut ou ça pourrait s'entendre, c'est-à-dire que les autorités algériennes disent mais ces gens-là, et pour la plupart ont passé X années sur le territoire français, ont eu un parcours de délinquants, donc il est hors de question pour moi d'accepter des personnes qui ont ce passé de délinquants, et puis toutes ces bêtises, toute cette délinquance a ou aurait été entre guillemets insufflé ou apprise dans ce pays qu'est la France. Donc ils refusent de prendre les personnes qui sont qui ont un casier judiciaire. Alors c'est un discours qui peut ou qui pourrait se tenir, mais c'est vrai qu'on se pose la question de savoir comment, entre guillemets, faire en sorte d'appliquer les décisions des autorités françaises. Alors le contre-coup, c'est quoi? C'est d'abord de punir les gens en leur disant, déjà ceux qui veulent venir, on va vous compliquer la vie pour vous donner les visas. Et puis c'est punir ceux qui sont sur le territoire français, qui ont un titre de séjour. La punition est dans quel sens? La punition est dans le sens où il y a tolérance zéro. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un titre de séjour, je vais faire en sorte de vous mettre un coup de marteau sur la tête au moindre écart. On pourrait comprendre que, je dis n'importe quoi, mais que quelqu'un qui serait condamné, poursuivi pour des faits qu'on pourrait qualifier de crimes, que la France dise « j'en veux pas » et puis « au revoir ». Sauf que on a des actes, alors je dis pas que c'est bien, mais voilà, on a des actes de délinquance qui sont pas aussi graves que des faits de crime, et puis les autorités françaises sont devenues très compliquées, puisque on va vous condamner pénalement, ça je peux l'entendre et le comprendre. Il peut y avoir des peines de prison qui seront assorties à cette condamnation pénale, et puis il y a une deuxième sanction, c'est ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps la double peine. La deuxième sanction, c'est que l'autorité préfectorale a la possibilité de vous dire, bah, écoutez, vous avez constitué une atteinte à l'ordre public, et donc je vous remercie de bien vouloir me restituer votre titre. La difficulté qui se pose, c'est que, en règle générale, la procédure va jusqu'au bout. Concrètement, ça se passe comment? Vous recevez un petit courrier. Alors, si vous n'êtes pas placé en détention, hein, mais vous recevez un petit courrier pour vous dire, écoutez, on envisage de retirer votre titre de séjour, donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir, puisque je ne parle pas de quelqu'un qui serait sur le territoire français que depuis 15 jours, donc quelqu'un qui serait éventuellement marié, qui aurait un boulot. On va vous fixer un rendez-vous pour la restitution de votre titre de séjour. Et puis, on va vous demander des observations à cette mesure. C'est en gros pour assurer votre défense. Donc, vous avez 15 jours pour dire si vous êtes d'accord avec la motivation, avec les motifs invoqués par les autorités préfectorales. Alors, vous êtes d'accord ou pas, vous allez apporter votre explication. Mais la probabilité d'être entendu par les autorités préfectorales est faible. Et en règle générale, la préfecture va jusqu'au bout. Donc, on va très souvent confirmé en disant, écoutez, voilà, vous nous avez apporté des explications, on n'est pas convaincu, merci de restituer le titre de séjour. Après, il n'y a pas 1000 options. Il y en a une qui consisterait à aller restituer votre titre de séjour et vous devenez officiellement une personne en situation régulière. Et on a parfois des clients qui disent, mais je ne vais pas leur donner. Ça n'a pas d'incidence. Puisque si vous leur donnez pas, votre titre de séjour officiellement va être désactivé. C'est-à-dire que si demain vous souhaitez passer une frontière, forcément ça se verra. Si demain vous faites l'objet d'un quelconque contrôle de police, forcément la police le saura. Donc en vérité, il n'y a pas beaucoup d'options. Ce sont des mesures qui peuvent faire l'objet de contestations. Ce sont des contestations qui sont toujours compliquées. Et en particulier quand on est célibataire. Parce que quand on est célibataire, on part du principe que tous vos centres d'intérêt sont au pays. Donc, même moi, magistrat, j'aurais tendance à être d'accord avec les autorités préfectorales. Maintenant, si vous avez une vie sociale sur le territoire français, si vous êtes marié, vous êtes paxé, et si vous avez des enfants, évidemment que les autorités judiciaires, tribunal administratif, cour administrative d'appel, vont prendre ça en considération. Mais il arrive aussi, heureusement, c'est à la grandeur de ce pays, que les tribunaux déjugent les autorités préfectorales.
Bien, on va accueillir Ouria, maître Serran. Ouria, fidèle auditrice. Ouria est à Lyon, d'ailleurs, si je me souviens bien. Ouria, comment ça va ?
Ça va, tranquillement. Je vous écoute avec...
Voilà, Ouria qui est à Lyon et dans sa voiture souvent d'ailleurs.
Tout à fait. Il me dirige sur mon lieu de travail.
Bien. Comment ça va, Ouria? Écoutez, vous avez regardé le match aujourd'hui ou pas?
Alors, en toute sincérité, je suis pas une fan, mais bon, je suis fier de ce que font les Marocains. Tant mieux pour eux. Ils bousculer un petit peu ce calendrier qui paraissait plus ou moins déjà écrit, tant mieux pour eux, qu'ils écrivent une nouvelle page. Je leur souhaite que le bonheur de réussir.
Bah, moi, je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas si fan de foot que ça, vous en parlez bien, Ouria.
C'est vrai.
Mais il faut parler des choses agréables. Alors, je voulais aussi rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport au titre de séjour. Parce que dans le but initial, c'était juste de vous faire un petit coucou, mais c'est vrai qu'actuellement, on a des ressortissants, peu importe les pays, mais c'est vrai que l'Algérie ne joue pas le jeu. Il faudrait qu'elle joue le jeu, parce que ça pourrait éventuellement stabiliser éventuellement ceux qui sont en situation d'attente ou d'autre, pour pouvoir justement se stabiliser et grandir avec le pays d'adoption qui veulent faire la France, où ils veulent s'installer, et éventuellement récupérer les individus qui ne marchent pas droit. Le but d'un pays, c'est de grandir, c'est pas non plus de prendre tout ce qui traîne. Après, moi, je suis très, très carré, hein, je suis très franche dans mes propos, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une population qui veut vivre, mais vivre selon leurs lois. Quand on s'intègre dans un pays, ou qu'on veut s'installer dans un pays, peu importe le pays, hein, il faut éventuellement lire les règles. Et ces règles, elles sont très claires pour tout le monde, pour tout citoyen qui veut s'installer dans un pays. Maintenant, quand on est en situation irrégulière ou autre, ben, il faut un petit peu se remettre en question et puis voir d'autres rentrer dans son pays, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on accueille. Je dis ça et je suis consciente que ce ne soit pas du racisme, parce que ça, tout est un... C'est simplement qu'aujourd'hui, nous avons, nous, des enfants issus de cette immigration, issus de tout le parcours de 50 ans, 60 ans. Il faut les installer sur le territoire européen, et je dis bien européen et pas forcément français. Il faut les installer de façon pérenne, et pour ceci, il faut éventuellement voir plus loin. L'objectif de tout à chacun, c'est de réussir sa vie, c'est pas non plus de s'imposer.
Alors, Ouria, on va être coupé par la pub, hein. C'est pas que je veuille vous arrêter, hein. Je vous assure que vous avez la liberté de parole. Il y a la publicité qui nous dirige. En tout cas, on vous fait un gros bisou. Ça fait plaisir de vous entendre. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu. Et Maître Serran est rassuré. Du coup, il va reprendre un croissant. On vous fait un gros bisou, Ouria.
On vous embrasse.
Merci, Ouria. Et dans un instant, vos questions juridiques à Maître Serran au 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors à ceux qui se posent la question, oui, nous sommes en direct. Nous sommes en direct tous les samedis matins, sauf quand Maître Serran a des audiences le samedi. Mais on est en vrai direct. Hein, et d'ailleurs, merci Maître Serran.
Comment je peux le prouver? Ah oui, c'était en direct, mon cher Philippe, quand même.
Comment on peut prouver que c'était en direct? Non, on peut donner l'heure, il est 9h23 et 52 secondes. Voilà.
On est en direct.
Ouais, on est en vrai direct.
C'est vrai.
Alors, quelqu'un dit que vous ressemblez à Harvey Specter.
Je sais pas.
Je suis pas sûr.
Non?
Non, je suis pas sûr. Non.
Ou peut-être à le type qui fait. Dont le nom m'échappe, parce qu'il n'est pas connu, la pub sur le café.
À Georges Clooney. Ah, c'est ça? Vous vous ressemblez à Georges Clooney.
Paraît-il. Bah, c'est vous qui me l'avez dit une fois, hein, sauf si c'était vraiment, parce que vous n'aviez pas trop quoi me dire.
Oui, c'était ça.
Ouais, c'est juste pour me balancer ça.
J'avais un moment d'absence, je ne savais pas quoi vous dire, et voilà, j'ai meublé.
D'accord, ok.
Voilà, et au 01 53 48 3000, eh bien, nous accueillons Miloud qui est avec nous. Miloud, vous êtes le bienvenu.
Bonjour Philippe, bonjour Maître.
Bonjour Miloud.
Je vous écoute tous les samedis, vous avez une émission très très bien.
Ben voilà. Et on est en direct, Miloud. Ouais. Hein, voilà.
Exactement. Moi, j'ai une question à mettre. J'ai ma sœur qui a un titre de séjour espagnol, qui vivait en Espagne. Mais mes parents sont très malades. Mon père a 90 ans, ma mère en a 85. Elle est venue s'occuper d'eux. Et elle a des fiches de paye. Et j'aimerais bien savoir si c'est possible d'avoir un titre de séjour, une carte de séjour française ou pas, Maître.
Alors... Souvent, quand on pose la question et quand on dit c'est possible, les personnes interprètent mal et considèrent que ce serait entre guillemets de droit. Alors c'est pas de droit, c'est-à-dire qu'on peut avoir un titre de séjour espagnol, italien, grec, peu importe. Il faut savoir que le titre de séjour permettrait de circuler sans aucune difficulté. Pour autant, les titres de séjour de l'espace Schengen ne vous autorise pas à rester sur le territoire français, si vous voulez vous installer en France, de manière pérenne. Mais, compte tenu de la situation... Alors, il y a deux choses, parce que vous me dites... Alors, elle a des fiches de paye, donc elle travaille, par définition.
Mais oui, quand on s'occupe de mes parents ont les fiches de paye, donc elle a des fiches de paye.
Ah, d'accord. Donc, des fiches de paye, mais par rapport à vos parents.
Oui, on a un contrat.
D'accord, ok. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Ça, c'est une manière, entre guillemets, d'accrocher les autorités préfectoral, c'est-à-dire que alors d'abord ils vont s'assurer de la réalité de la situation de vos parents, et puis à partir du moment où il est établi que la présence d'un enfant et notamment de votre sœur est indispensable pour vos parents, donc c'est éventuellement jouable là-dessus. Vous avez bien compris qu'ils vont quand même vérifier entre guillemets la réalité de la chose, c'est-à-dire voir si on n'est pas, j'allais presque dire, dans le cadre d'un emploi fictif. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà,
oui,
d'accord. Voilà. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que il y aura une vérification qui sera faite par rapport à ça, et à partir du moment où on considère que la présence de votre sœur est indispensable, les autorités préfectorales donc pourraient éventuellement donc lui donner gain de cause. On va vérifier également si pour voir si vraiment la présence de votre sœur est indispensable, s'il n'y a pas d'autres éventuellement frères et sœurs qui auraient été en capacité de s'occuper des parents et qui eux seraient soit de nationalité française, soit en possession d'un titre de séjour. Donc il y a que votre sœur qui a priori peut faire ça. Ou est-ce qu'il y a d'autres frères et sœurs?
On est que tous les deux, mais moi d'accord. Je m'occupe de mes enfants.
D'accord. Bon, enfin voilà, donc c'est un élément qui est pris en considération, mais de ce que vous êtes en train de me dire, a priori, j'allais dire déjà, la charpente du dossier tient la route. Donc ça, c'est important.
Merci maître, et ça peut prendre combien de temps quand on fait une demande et avoir une réponse générale? Bon,
alors il faut s'armer de patience. Il faut savoir que maintenant dans la plupart des préfectures, les rendez-vous se prennent via internet, sauf que il est quasi impossible d'avoir un rendez-vous par internet. Alors soit vous patientez ad vitam aeternam, soit vous leur forcez la main, et pour leur forcer la main vous avez la possibilité, alors c'est terrible ce que je vais vous dire, mais c'est une option de saisir un juge en référé, c'est une procédure d'urgence, pour que le tribunal oblige la préfecture à communiquer une date de rendez-vous. Donc vous voyez, c'est terrible, on en est là. Ou alors, il y a l'autre option, qui consiste à envoyer ce fameux recommandé avec accusé de réception, en expliquant pourquoi est-ce qu'on saisit les autorités préfectorales par écrit et pas via Internet. Donc il faudra faire des inscriptions sur le site internet de la préfecture et faire des captures d'écran pour en justifier, pour leur dire, écoutez, je me suis connecté X fois et il n'y a aucun rendez-vous disponible via internet. Et lorsque la préfecture est saisie, elle a un délai de 4 mois pour apporter une réponse.
Ah oui.
Voilà, mais si au bout de 4 mois, il n'y a pas de réponse, on parle d'un refus implicite. Ça veut dire que c'est un non de la part de la préfecture et la préfecture n'est pas obligée de vous envoyer un courrier pour vous dire, écoutez, monsieur, on refuse. Donc, au bout de 4 mois, c'est un refus implicite. Et ensuite, le seul recours qui reste, c'est de saisir le tribunal administratif pour contester ce refus implicite. Mais quand on additionne le délai pour la préfecture et le délai pour le tribunal, monsieur, on est sur quasiment un an et demi. Ouais, il n'y a pas... Alors, je pourrais vous inviter à engager une procédure de référé, une procédure d'urgence. Vous voyez, ça permet de gagner du temps. Maintenant, la procédure d'urgence, il y a ce côté aléatoire. Il faudrait que le juge considère que la situation de vos parents et de votre sœur est tellement urgente qu'il va se prononcer tout de suite. Maintenant, un juge en référé pourrait vous dire « ça ne relève pas de la procédure de référé » et renvoyer le dossier à une procédure, comme on dit, de droit commun, c'est-à-dire avec des délais qui peuvent sembler interminables. Donc c'est vrai que la procédure de référé, avant de l'engager, en règle générale, les avocats réfléchissent longuement. Il y a un côté un peu aléatoire. L'urgence de la situation que vous êtes en train d'exposer n'est pas forcément interprétée de la même manière par le tribunal.
D'accord.
Mais le délai en dehors de cette procédure de référé, entre, je vous dis, la préfecture et le tribunal administratif, oui, un an et demi, c'est un délai entre guillemets classique en la matière. Hein.
Ah oui, d'accord. D'accord, bah écoutez, bah, merci pour tout, maître.
Merci à vous pour votre appel.
Je vous souhaite un bon week-end et merci à Philippe.
Merci Miloud pour votre question. Bon, merci. Aïcha est avec nous. Aïcha, bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Bonjour Aïcha.
J'appelle pour une situation qui dure pour moi. C'est pas pour les papiers, j'ai mes papiers, j'ai ma nationalité, je suis binationale. Je suis un peu émue, je ne sais pas comment vous expliquer. Je subis une certaine injustice en 2019. J'ai confié un dossier. Allô?
Ah oui, on vous écoute, Aïcha.
Oui, excusez-moi. Donc, en 2019, j'ai confié un dossier pour un problème personnel à un avocat. Je l'ai payé, il ne m'a pas donné de facture. Et il y a eu juste après le Covid, etc. Donc, mon dossier n'a jamais avancé. J'ai demandé à cet avocat de me restituer mon dossier. Il me l'a restitué. J'ai pris un autre avocat. Je suis toujours... j'ai toujours des problèmes de santé. Je ne travaille pas. J'ai payé une grosse somme à cet avocat et j'aurais aimé savoir, parce que quand tu m'appelles, il ne calcule pas. Je ne sais pas parce que je suis d'un certain âge ou je ne sais pas pourquoi il ne respecte pas. Et voilà, donc j'ai vu avec le juriste de mon assurance, il m'a demandé de contacter cet avocat pour lui demander des factures, etc., pour qu'on puisse m'aider à financer mon deuxième avocat. Voilà, c'est un problème.
Ce dont vous avez besoin, madame.
J'aimerais bien être avec vous et regarder le match, mais je n'ai plus le cœur pour ça. Je trouve que ce n'est pas juste.
Ce dont vous avez besoin, c'est pour bien comprendre, c'est d'une facture, d'un règlement fait par l'avocat.
D'une facture qui puisse m'aider ou que l'avocat revoie qu'il m'a pris alors qu'il n'a pas traité mon dossier. Pour qu'il m'aide un peu financièrement, il me restitue une partie de ce que je lui ai payé. Il me donne des factures pour que le service juridique.
Voilà, juste pour comprendre. C'est-à-dire, est-ce que votre demande, c'est de dire, écoutez, maître, moi j'ai réglé, merci de me donner une facture correspondant au règlement.
Exactement.
D'accord, oui. Donc c'est la demande.
Enfin, il y a deux demandes dans une demande. La première demande, comment je dois faire pour contacter cet avocat pour qu'il revoie ce qu'il m'a pris comme argent, parce qu'il m'a pris une bonne somme d'argent, que je ne peux pas payer à mon deuxième avocat. Mon dossier traîne toujours, je suis toujours en arrêt maladie.
Alors,
je suis toujours pas bien et je me sens un peu arnaquée.
Alors il y a deux choses, madame. Selon moi, bon, comme dirait l'autre, je sais pas ce qu'il en est de la situation, mais envoyez peut-être. Alors soit un courrier, soit un mail, ou peut-être un mail pour gagner du temps compte tenu de votre situation, pour solliciter cette facture.
Voilà. Je n'ai plus l'adresse mail de mon avocat. Je n'ai que son téléphone.
Alors laissez. Ou est-ce que vous pouvez peut-être envoyer un courrier?
Oui, mais je n'ai pas sa carte de visite. Je n'avais que sa carte de visite.
Ah oui, non, enfin, alors, je parle pas d'un courriel, mais un courrier, enfin, le truc basique, une lettre.
Ouais. Oui.
Voilà. Et là, il y a deux choses dans ce que vous dites. C'est-à-dire que, je crois comprendre qu'il y a la facture, et je crois comprendre qu'ensuite, vous considérez que, le montant qui a été réglé, enfin, de ce que vous dites, que vous souhaiteriez, éventuellement, qui vous rembourse une partie des honoraires. Alors, il y a deux choses, madame. C'est-à-dire que, d'abord, c'est une demande que vous pouvez évidemment formuler, mais il faut savoir que dans l'hypothèse où, pour une raison lambda, un avocat n'est pas d'accord avec une demande formulée par monsieur X ou madame Y, il y a, entre guillemets, un arbitre. L'arbitre, ce sera le bâtonnier de l'ordre des avocats qui est chargé de statuer et de se pencher sur le dossier pour voir si le montant réglé par monsieur ou madame correspond, entre guillemets, à un travail fourni.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut saisir le bâtonnier.
S'il n'y a pas de réponse de l'avocat, ou s'il y a une réponse négative, c'est-à-dire qu'on a le droit de, comme dire, de pas être d'accord avec X ou Y, mais dans ce cas-là, la juridiction, entre guillemets, qui gère ce genre de litige, c'est l'ordre des avocats du lieu où l'avocat est inscrit. Et c'est le bâtonnier qui va convoquer les uns et les autres, qui va statuer et qui rendra une décision écrite. Et les bâtonniers, entre guillemets, traitent les dossiers avec diligence. Ça, faut le savoir. C'est
diligence, ça veut dire
C'est-à-dire qu'ils... parce que souvent, on nous dit, bah oui, mais un avocat qui s'adresse à un autre avocat, entre guillemets, entre eux, ils vont pas se sanctionner. Non, le bâtonnier, quand je dis traite avec diligence, d'abord, c'est traité très rapidement, et il traite le dossier sérieusement. C'est-à-dire qu'il va vérifier le boulot qui a été fait par les uns, les montants réglés par les autres, et ainsi de suite. Et il rendra une décision.
Donc c'est au niveau du bâtonnier que ça se aujourd'hui ça se traite aujourd'hui.
Absolument.
Alors vous restez en ligne, on va revenir dans un instant. Et si vous avez des questions juridiques à poser à Maître Serran, vous composez le numéro du standard 01 53 48 3000 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, vous posez vos questions en direct à Maître Serran au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Maître Serran, pour tout le monde, comment est-ce qu'on saisit le bâtonnier? Comment ça se fait, la procédure?
Lettre recommandée avec accusé de réception. à l'ordre des avocats du lieu où l'avocat est inscrit. À partir de là, c'est pour ça que je dis qu'ils sont très diligents. Hein. Ce sont des procédures très sérieuses et ils répondent rapidement. On va envoyer une copie de votre courrier à l'avocat concerné pour dire, voilà, il y a Monsieur X, Madame Y qui se plaint de ça, quelle est votre position. Vous expliquez votre position et à partir de là, ensuite, le bâtonnier va prendre une décision. Donc, il va fixer un rendez-vous, enfin une audience. L'intéressé est invité à se présenter, l'avocat est invité à se présenter et le dossier sera traité en présence d'un représentant du bâtonnier. C'est pas le bâtonnier en personne, évidemment, qui sera présent, mais c'est sous le contrôle du bâtonnier. Et à partir de là, une décision est rendue. Si l'une des parties, l'avocat ou le particulier n'est pas d'accord avec cette décision, ce qui peut arriver, l'avocat ou le particulier ont la possibilité de contester cette décision devant la cour d'appel, en l'occurrence de Paris, si on est en région parisienne, et la décision définitive reviendra à la cour d'appel.
Alors, on a Kaina qui est avec nous au 01 53 48 3000. Kaina, bonjour et bienvenue.
Merci. Allô, bonjour.
Bonjour Kaina.
Bonjour Kaina.
Ça
va et vous?
Oui, ça va, je vous remercie. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Moi, j'appelle pour un ami. Son père, il a eu sa nationalité française en 1982. Et son fils est né en 83. Du coup, son fils, il a fait toute cette... Bon, son fils est né en Algérie. Hein. Il l'a ramené en France à l'âge de 1 an. Et il a fait toute sa scolarité ici jusqu'à l'âge de 17 ans. Mais à l'âge de 17 ans, il l'a ramené en Algérie. Et maintenant, il m'a posé la question. Elle me dit, est-ce qu'il y a moyen de faire ses papiers ici en France? Et toutes ses soeurs et frères, ils vivent encore ici en France. Ils ont toute la nationalité française. Il est le seul à être en Algérie.
Alors, il n'y a rien qui, encore une fois, il n'y a rien qui interdirait à l'intéressé de solliciter, en principe, un visa d'installation. Il faut être réaliste. La France accorde très peu de visas d'installation. Donc, a priori, ce sera une situation qui ne va pas se régler. Alors, pourquoi j'ai un visa d'installation? Parce que c'est un visa qui lui permettrait d'obtenir un titre de séjour. On va laisser de côté la nationalité française, puisque vous me dites que son père, il est devenu français en 82 et l'intéressé est né en 83. Donc, il ne peut pas bénéficier automatiquement de la nationalité française de son père. Donc, on est plutôt sur une histoire de titre de séjour. Mais c'est vrai que pour obtenir un titre de séjour, on va dire en bonne et due forme, c'est une demande de visa d'installation que les autorités françaises accordent au compte-goutte. Donc c'est une procédure qui a priori va continuer devant la commission de recours contre les refus de visa, donc à Nantes, et éventuellement devant le tribunal administratif de Nantes. Bon, il a ou il aurait un argument qui est sérieux. Si vous me dites que toute la famille est sur le territoire français, donc...
Oui, ils sont tous français, ses frères et sœurs. D'accord. Ils ont tous la nationalité française, mais il n'est plus en contact avec eux.
Ah, il n'est plus en contact avec eux?
Non. Il n'est plus en contact avec eux, mais il a fait sa scolarité. Oui, il a fait sa scolarité en France.
Hein, oui, alors le... J'entends bien, mais c'est... Enfin, voilà, hein, le fait d'avoir fait sa scolarité sur le territoire français... Voilà, et ensuite, pour des raisons lambda, retourner au pays, en tout cas que le papa le ramène au pays, enfin voilà, ça n'a pas plus d'incidence que ça. Donc voilà, par définition, j'imagine qu'il doit maîtriser la langue et il doit avoir une certaine culture. Voilà, mais voilà, c'est
arrivé, parler même pas l'arabe.
Hein. D'accord. Bon, bah voilà, mais c'est pas le, entre guillemets, la condition, on dirait, bon, bah, il a fait sa scolarité en France, de facto, il peut venir et puis il aura un titre de séjour. Ce serait pas sérieux de dire ça.
Non, moi, je croyais que c'était par rapport à son père qui était français déjà.
Encore une fois, puisque au moment où il était, il était français avant que l'enfant naisse.
Voilà. Bon, donc. Le papa, il était en 82 français et le fils, il est en 83.
Non, on peut transmettre la nationalité, sa nationalité, en tout cas la nationalité française, à ses enfants mineurs. À ce moment-là, oui, de facto, ils vont en bénéficier. Mais s'il est né un an après, non, il n'est pas concerné par la nationalité de son père. Donc, il faut qu'il fasse, voilà, entre guillemets, la procédure, classique en la matière. Et puis, certains demandent un visa court séjour et se maintiennent sur le territoire français. Alors techniquement c'est possible, mais c'est pour être tout à fait honnête, c'est une vraie bataille ensuite avec les autorités préfectorales.
D'accord, une petite question. Est-il possible, sans qu'il soit là, qu'il y ait un avocat qui s'occupe de ça, vous par exemple?
Alors, c'est possible, mais...
Vous transmettez tout le dossier, et voilà.
En vérité, il n'y a pas, entre guillemets, grand-chose à faire de la part de l'avocat, puisque la demande de visa, elle est faite de manière intuitive personnelle, c'est-à-dire elle doit être faite par l'intéressé lui-même.
Donc, d'accord, il faut d'abord qu'il fasse un visa, il n'y a pas besoin qu'il fasse directement la demande de ses papiers ou autre.
Non, voilà, il faut d'abord commencer par ça, et recourir à un avocat juste pour demander un visa, honnêtement, de toute manière, ça n'aboutira pas, c'est même pas recevable. Donc ça, c'est une demande qui doit être faite par l'intéressé lui-même.
Par contre, moi, à la base, c'était pas pour faire une demande de visa.
Madame, si c'est juste... C'est injouable, ça n'existe pas, là. C'est une procédure... Oui, c'est-à-dire que... une fois sur place, s'il a obtenu son visa long séjour...
Ouais.
Après, si il a un visa court séjour et puis il dit tant pis les gars, je vais quand même me maintenir, il aura besoin d'un avocat, mais c'est une vraie bataille puisque c'est entre guillemets trahir la parole donnée à la France. La France vous dit vous venez comme touriste et vous repartez. Si vous venez comme touriste et puis vous dites je suis un faux touriste, maintenant je veux rester, donnez-moi des papiers. Vous imaginez bien que la France va avaler ça de travers en disant saisissez la préfecture si vous le souhaitez, mais ça va être une bataille.
D'accord.
Voilà, donc
alors,
à ce stade-là.
Mieux qu'il passe,
de toute manière, à ce stade-là, avocat ou pas avocat, il ne serait pas possible de demander un titre de séjour. Demander un titre de séjour, encore faut-il commencer par le commencement, donc par une demande de visa.
Ouais, d'accord. Non, parce que lui, il ne voulait pas faire de demande, il voulait essayer de refaire ses papiers vu que son père avant sa
naissance. Il l'oublie, ça n'a rien à voir. Voilà. Il ne peut pas bénéficier de ce que vous êtes en train de me dire. Il ne peut pas bénéficier de la nationalité française de son père. Donc, il ne peut même pas demander un certificat de nationalité française.
Il aurait pu le faire avant ses 18 ans, quand il était ici en France.
Non, vous me dites au moment où le père.
Moi, j'avoue que j'ai pas compris.
Voilà, le père est français. Le père est français, mais il était pas né quand son père est devenu français.
Non. Oui, quand son père est né, son père en 82 était français.
Il est né un an après. Le père ne peut pas transmettre sa nationalité française à un enfant qui n'existait pas à ce moment-là. On transmet sa nationalité française à ses enfants mineurs.
D'accord.
Donc, par définition, il faut qu'il soit né. Donc là, il ne peut pas bénéficier...
C'est-à-dire c'est au moment où vous obtenez la nationalité, c'est à ce moment-là que vous la transmettez si les enfants sont déjà nés et qui sont mineurs. Mais les enfants qui viennent après...
Non, ils ne sont pas concernés.
Non. Et pourtant, vous êtes devenu français.
Qui ça?
Le père, il est devenu français entre-temps.
Oui, mais il est devenu français en 1982.
Oui,
mais ça, donc il est français.
Et le fils naît
en 83, l'enfant naît.
Il
naît,
voilà.
Mais le père était français, l'enfant naît.
Oui, mais l'enfant, il est reparti au bled, sauf erreur, non?
Il est reparti au bled à l'âge de 17 ans. Il est resté 17 ans en France.
C'est-à-dire qu'au moment où il naît, son papa est français. Oui. Il est né d'un père français.
C'est ce que je suis en train de vous dire, Metzeran. C'est pour ça que je comprenais pas.
Dites-le dans le bon
sens. Qu'est-ce que c'est cette avocate? Dites-le
dans le bon
sens. En plus, il m'oblige à répéter.
Autant pour moi.
Donc.
C'est important. Si l'un de vos parents, le père ou la mère, est français au moment de votre naissance, vous transmettez votre nationalité française. Ce qui veut dire que l'intéressé peut, sur la base des documents de son père, solliciter un certificat de nationalité française pour établir d'abord sa filiation et dire je bénéficie de la nationalité française de mon père.
Voilà, c'est ça.
D'accord. C'est possible.
Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez donc après rétroactivement demander la nationalité française, même si vous ne l'avez pas fait au moment où vous auriez dû l'avoir.
À partir du moment où vous avez l'un de vos parents, papa ou maman, qui est de nationalité française, vos enfants peuvent bénéficier de votre nationalité, même si...
Même s'ils ne l'ont pas fait au moment.
Voilà, même s'ils ne l'ont pas fait à ce moment-là, ou même si la mère de l'intéressé est d'une autre nationalité que française.
On va y arriver.
Voilà,
China, on y arrive. Il faut vite. C'est des vieux avocats, il faut leur expliquer un petit peu. Oui.
C'est vrai. Je vais t'en coller,
ça,
moi.
Il doit faire quoi, du coup? Il doit faire quand même une demande de nationalité, de visa, le long séjour, ou
alors, il peut
directement ici?
Il vaudrait mieux d'abord, dans ce cas, justifier, entre guillemets, du fait qu'il puisse bénéficier de la nationalité française de son père.
Mm-hmm.
Et pour ça, il peut demander un certificat de nationalité française, comme il l'est à l'étranger. C'est un service à Paris, au tribunal judiciaire de Paris. C'est le seul service compétent pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Et là, effectivement, il peut recourir à un avocat s'il le souhaite. La procédure est, entre guillemets, alors simple. Pas simple dans le sens où il le donne facilement, mais assez classique en la matière. Il y a une demande qui est formalisée auprès du service. Ils ont un délai de 6 mois pour apporter une réponse. Si la réponse est positive, banco. Si la réponse est négative pour un motif lambda, c'est ensuite le tribunal judiciaire de Paris qui est compétent pour traiter du dossier. Mais, puisque ça a changé très, très récemment, ils ont 6 mois pour apporter une réponse.
D'accord.
On en a parlé. Réécoutez le podcast de l'émission de la semaine dernière, puisqu'on en a parlé semaine dernière, du certificat de nationalité française.
D'accord.
Bon, sinon, Kaina, vous appelez...
Je rappellerai Orline.
Voilà, appelez Maître Serran après la chicha, après le match.
Après la chicha et après le match.
Vous avez compris. Maître Serran était déjà au 5, là, il est en studio, mais là, il va partir au 5. Donc, on le récupère après le match.
Je ne sais même pas.
Okay, ça marche.
Si le Maroc gagne, on va faire la fête quand même.
Vous allez faire l'after?
Bah, quand même. Ça va klaxonner de partout, on va être content, non? Donc, c'est normal, non?
On vous fait un gros bisou, Kaina. Merci.
Un gros bisou et
votre
à
patience.
Tout bientôt.
Au revoir, Kaina.
Voilà, c'était important. On a pris du temps, mais c'est vrai que c'était important d'expliquer jusqu'au bout cette procédure, etc.
Heureusement que vous avez insisté.
Non, mais
ça m'a permis de remettre mon cerveau.
J'ai essayé de comprendre la logique de ce que vous disiez. Vous voyez, et pourtant, je vous connais bien. Et je remets rarement en cause ce que vous dites, Maître Serran, mais
il y a parfois des neurones qui partent sur le côté.
Voilà. Alors, en parlant de neurones, l'imam Abdelali Mamoun arrive.
D'accord.
Dans un instant.
Le neurone personnifié.
Voilà. C'est un neurone barbu qui arrive pour l'islam au présent dans un instant.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.